Alors, la RDC a été déclarée la semaine dernière pays conforme à l'ITIE à Mexico au Mexique par les conseils d'administration de cette structure. La RDC fait désormais partie du cercle restreint des 29 pays au monde ayant réalisé des progrès importants dans la transparence des revenus tirés de l'exploitation des ressources minières et pétrolières. Quelle analyse faire de cette annonce? Nous en parlons avec le professeur Jérémy Makdumba. Il est coordonnateur de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE-RDC. Bonsoir, professeur Jérémy Makdumba.
Bonsoir.
Jean-Pierre Mouteba, porte-parole de la coordination de la société civile du Katanga. Bonsoir, Jean-Pierre Mouteba. Bonsoir, Jean-Pierre Mouteba. Voilà, il va nous rejoindre. Alki Tengue, analyste et stratège. Bonsoir, monsieur Alki Tengue.
Bonsoir, Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
En matière de transparence, une bonne note en faveur de la RDC. Elle a été déclarée mercredi dernier pays conforme à l'ITIE à Mexico au Mexique par le conseil d'administration de cette structure. La RDC fait désormais partie du cercle restreint des 29 pays du monde ayant réalisé des progrès importants dans la transparence des revenus tirés de l'exploitation des ressources minières et pétrolières. Par ce statut et en face de la norme ITIE, la RDC va résolument s'engager vers l'amélioration de la gouvernance de son secteur extractif afin que ces derniers profitent de plus en plus au peuple congolais. Innocent Olinga pour les détails.
Disons qu'avec cette conformité, la RDC échappe ainsi à la menace des radiations de l'ITIE qui pesait sur elle après que son statut de pays candidat a été suspendu temporairement pour 12 mois en avril 2013. Le conseil d'administration de l'ITIE reprochait au rapport 2010 de la RDC un défaut d'exhaustivité et jugeait insuffisante la qualité des données. Pour que la mesure de suspension soit levée et que les pays accèdent au statut de pays conforme, la RDC devrait publier avant le 31 décembre 2013 son quatrième rapport portant sur l'exercice 2011 tenant compte des mesures correctives. Ces mesures concernaient essentiellement la définition de la matérialité, l'exhaustivité des déclarations par toutes les entreprises du périmètre et de tous les flics du cadre référentiel, exercice auquel les gouvernements congolais et les entreprises concernées se sont livrés, consistant à la réconciliation des données des flics des revenus déclarés perçus par l'État d'une part et les flics des paiements déclarés versés par les entreprises extractives du secteur des mines et pétrolières d'autre part, sur la base du référentiel défini par les groupes multipartites de l'ITIE RDC. C'est le rapport 2011 respectant ainsi ces mesures correctives qui a fait que la RDC ait cette bonne note et soit déclarée pays conforme à l'ITIE.
Les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources naturelles saluent les efforts du gouvernement, de la société civile et des entreprises qui ont permis à la RDC d'atteindre les statuts de conformité à l'ITIE. Ces ONG l'ont fait savoir dans un communiqué de presse publié mercredi dernier à Kinshasa. Mimi Ngumba pour les détails.
La coalition Publiez ce que vous payez, RDC, le réseau ressources naturelles et la plateforme des organisations de la société civile dans les secteurs miniers considèrent que la conformité n'est pas synonyme de transparence à 100% ou que les ressources naturelles du pays sont désormais gérées de manière parfaite. Dans leur communiqué, ces trois ONG promettent d'être plus vigilantes pour notamment faire obstacle aux questions des détournements publics dans ce secteur. Toujours dans ce document, elles appellent le gouvernement de la RDC à mettre à la disposition du comité ITIE-RDC les moyens financiers et matériels nécessaires pour rendre ce mécanisme plus robuste, ce qui permettra d'améliorer la gouvernance. Tout en se félicitant de cette étape franchie, ces structures de la société civile ont enfin souhaité que la justice et le Parlement poussent le gouvernement à renforcer la transparence des industries extractives.
Professeur Jérémy Makdumba, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE-RDC. La RDC jugée conforme à l'ITIE, cela veut dire quoi?
Merci. Cela veut dire tout simplement qu'il y avait des exigences et la République démocratique du Congo s'est conformée à ces exigences. J'ai entendu dans l'analyse tout à l'heure une très bonne analyse, c'est-à-dire que depuis toujours, le principe de l'ITIE est basé sur le fait que chaque pays doit respecter les exigences de l'ITIE international.
Et quelles sont ces exigences auxquelles la RDC s'est conformée?
C'est en fait, après la publication du rapport 2010, il y avait des exigences que nous n'avions pas accomplies, réalisées. Il y en avait 6. Mais ces exigences, on peut les résumer sous 3 thèmes. J'ai bien entendu 2 thèmes tout à l'heure dans l'analyse, mais le troisième n'a pas été cité. En fait, la République démocratique du Congo, depuis qu'elle publie les rapports, n'avait jamais défini de manière claire et nette et bien compréhensive le seuil de matérialité. Quel était le niveau de paiement qu'il fallait prendre dans les déclarations? C'est ce qu'on appelle le seuil de matérialité. Et donc, il n'y a que dans ce rapport 2010 qu'on est arrivé à définir clairement la matérialité des paiements qui sont significatif est pris dans les rapports.
Et les matérialités, c'est un terme simple.
Le terme simple, c'est-à-dire, ce sont ces paiements qui, si vous ne les prenez pas, il faut les donner au trésor public. C'est-à-dire que les entreprises effectuent des paiements. Si vous oubliez, vous omettez un seul paiement, donc la valeur de l'ensemble des paiements du secteur extractif au trésor public est faussée.
Donc il faut qu'il y ait concordance entre les déclarations faites par les entreprises qui payent à l'État et les déclarations que l'État fait,
oui,
n'est-ce pas, par rapport aux revenus que ces entreprises
tout
ont payés au trésor public.
Lorsque les entreprises déclarent avoir payé, il ne s'agit pas de dire qu'on a payé. On doit retrouver cela dans la caisse de l'État. Et lorsqu'on retrouve cela dans la caisse de l'État, on doit comparer avec ce que l'État lui-même a déclaré.
C'est ça la matérialité?
Donc, non, c'est pas ça la matérialité. Maintenant, on dit, par exemple, je vais donner un exemple précis. En 2011, les entreprises ont déclaré avoir payé à l'État congolais 1,4 milliard de dollars, secteur minier et pétrolier. 1,4 milliard. Alors, nous avons dit, lorsque une entreprise a nommé 500 000 dollars, donc, on n'atteint plus le chiffre de 99,6% de l'ensemble des paiements. Ça diminue. Donc, on a dit, chaque entreprise qui a payé 500 000 dollars doit être retenue dans le périmètre. Chaque flux financier dont la valeur est de 500 000 dollars pour toute l'année doit être retenu. Parce que lorsque... C'est comme un filtre, mon ami. Lorsque on met tout dans ce filtre, lorsque 500 000 tombent, le poids global qui devrait rester dans le tamis diminue.
Voilà, vous avez parlé de la matérialité et l'autre exigence.
Donc l'autre, en fait, les exigences, l'autre groupe d'exigences, c'est sur l'exhaustivité. L'exhaustivité des entreprises. Donc la totalité de toutes les entreprises doivent normalement déclarer les entreprises industrielles, pétrolières, minières et gazières, qui sont en République démocratique du Congo et qui effectuent des paiements significatifs, doivent déclarer. Ça, c'est l'exhaustivité.
Pas seulement
les entreprises, mais aussi les flux financiers. Tous les flux financiers qui sont payés à l'État doivent figurer dans le cadre référentiel du rapport. Et le troisième, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'il faut que les déclarations des entreprises soient certifié, c'est-à-dire que les déclarations des entreprises doivent être tirées des comptes qui ont été audités. Et pour l'État, comme on n'audite pas les entreprises de l'État, il faut que cela soit certifié. Et l'IGF a certifié si les déclarations que les entreprises publiques et les régies financières ont effectuées ont été bel et bien certifié en arrivant au trésor public. Donc ce sont ces exigences que nous n'avions pas respectées jusqu'au rapport 2011.
Alors tout ceci ramène à la transparence. Cela veut dire qu'en matière de transparence, la RDC s'est conformée, n'est-ce pas, à la norme des litiers.
Donc oui, c'est cela. Il faut, pour bien comprendre cette norme, il faut dire que l'ITE est un processus. C'est une démarche que nous effectuons petit à petit. En accomplissant ces exigences, nous avons appris à mettre en place les instruments qui établissent la transparence dans le secteur industriel extractif.
Alors, comment on peut comprendre cette annonce aujourd'hui, alors qu'on savait que la RDC était en mauvaise posture, hein? On se rappelle qu'il y a de cela une année, c'était au mois d'avril de l'année dernière. La RDC avait été suspendue à cause du rapport ITIE 2010. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la RDC peut être jugée conforme à la norme ITIE?
C'est-à-dire que Nous avons publié 4 rapports. Rapport portant sur l'année 2007, le rapport jumelé 2008-2009, le rapport 2010 et le rapport 2011. Après la première validation, on n'avait pas accompli toutes les exigences de l'ITE. Après le rapport 2010, on a trouvé qu'il y avait ces 6 exigences que nous n'avions pas accomplies. Mais les principes de l'ITE établissent que, donc indiquent que lorsque un pays passe 2 validations pour sa conformité, il échoue, il doit être suspendu. Généralement, il doit être radié. Mais la République démocratique du Congo avait fait montre de plusieurs progrès significatifs au point où il pouvait encore améliorer. Donc, avec le rapport 2010 et le rapport complémentaire qui a amélioré parce que le groupe multipartite est parti auprès des parties prenantes pour leur dire « Voici notre rapport, qu'est-ce que vous dites ?» Et le débat était très fort. Et les parties prenantes ont jugé qu'il fallait des compléments d'informations pour améliorer ce rapport. Et maintenant, nous l'avons amélioré. Après l'examen du secrétariat international, on a trouvé que nous avions réalisé les mesures correctives et accompli les 6 exigences qui nous manquaient et nous avons été déclarés donc pays conforme.
On avait rapproché au rapport 2010 les défauts d'exhaustivité et l'insuffisance de la qualité des données. Donc on peut dire qu'en une année, la RDC a pu combler ces lacunes.
La qualité des données, il s'agit de la fiabilité. L'année passée, vous vous rappelez en rapport 2010, l'inspecteur général des finances avait établi son rapport, il disant que les données que la DGI avait fournies à l'ITE, c'était des données défendables, crédibles. Et les données de la DGDA étaient crédibles. Quant aux données de la DGRAD, l'inspecteur général des finances avait indiqué qu'il s'est réservé de déclarer que les 235 millions de dollars que la DGRAD avait déclaré avoir reçus des entreprises étaient bien, bel et bien arrivés au trésor. Il manquait 88. Donc c'est cela qu'on nous avait reproché, que nos données n'étaient pas fiables. Quant à l'exhaustivité, on avait dit que nous avions omis d'ajouter dans le périmètre des entreprises la Cohydro.
Merci, professeur Jean-Pierre Mouteba. Vous êtes en ligne?
Oui, nous sommes en ligne, s'il vous plaît.
Oui, je rappelle que vous êtes porte-parole de la coordination de la société civile du Katanga. La RDC est déclarée conforme à la norme ITE. Comment vous analysez cette annonce?
Nous saluons le professeur Makdouba et nous saluons tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Nous pouvons dire d'emblée que la validation de notre pays, c'est une validation de pure forme parce que le pays est en train d'être géré, surtout le secteur minier, géré dans une opacité totale. D'ailleurs, je vais revenir à ce que le prof Ndouba vient de dire. En ce qui concerne la matérialité, il est vrai que le seuil a été pris en compte, les 500 000, mais il faut considérer que dans la mise en œuvre de l'ITRDC, on a la communauté internationale, en passant par certaines ONG internationales et nationales, avait exigé que le contrat commun, appelé contrat chinois, puisse être pris en compte dans la mise en œuvre de l'ITE, ce qui nous a semblé depuis tout le temps comme étant une aberration, dans ce sens que, en ce qui concerne le contrat commun, commun n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui produit une seule tonne de cuivre. Et donc, commun ne pourrait pas être pris en compte dans cette matérialité-là, étant donné que Sicomine, ce n'est pas une entreprise qui aujourd'hui est en phase de production. Malheureusement, la communauté internationale, qui ne voulait pas que le contrat chinois pour lequel nous attendions des infrastructures démarre comme il avait été signé, a voulu mettre beaucoup de freins à ce que ce contrat-là commence à être exécuté. Et aujourd'hui, Sicomine s'est retrouvé dans cette mise en œuvre, alors que la matérialité de cette entreprise n'était pas n'était pas du tout confirmé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la fiabilité dont le professeur Mac vient de parler. La fiabilité est notamment soutenue par des données fiables, c'est-à-dire qui sont issues des comptes audités selon les normes internationales. Nous sommes revenus sur cette donnée depuis plusieurs temps parce qu'il y a le rapport BDO dont nous avions évoqué le contenu lors d'une émission passée. Donc, l'indicateur 12 dit que les déclarations sont basées. basé sur des comptes audités selon les normes internationales. Et nous l'avions réalisé en nous appuyant sur le rapport BPO, que l'entreprise, les deux entreprises dont il était question dans ce rapport, n'étaient pas auditées selon les normes internationales parce que les pièces comptables n'étaient pas au pays. Mais après que nous ayons affirmé cela en nous basant sur le rapport BDO, nous avions mené une enquête dans la province du Katanga et l'enquête a donné des résultats qui sont stupéfiants. C'est-à-dire que la plupart des entreprises, si pas la quasi-totalité des entreprises minières de la province du Katanga, n'ont pas de pièces comptables dans la province, c'est-à-dire ni dans leur siège d'exploitation à Lubumbashi ou à Kolwezi ou à Likasi, mais dans leur pays d'origine et leur comptabilité se tient en anglais, en chinois et dans d'autres langues. Donc nous avons énormément de problèmes de ce côté et nous pensons qu'il n'est peut-être pas ici les lieux de se glorifier ou de se réjouir, comme j'ai entendu la société civile du gouvernement le faire. Il n'est peut-être pas lieu aujourd'hui c'est de se jouer d'une transparence ou d'une gouvernance qui répond particulièrement dans le secteur des mines du Katanga. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et comme on l'a dit, les autorités nationales l'ont confirmé, le pays reste encore le premier pays le plus opaque au monde, notamment dans l'exploitation de ses ressources naturelles.
Monsieur Jean-Pierre Mouteba, dans une déclaration faite la semaine dernière par vous, les ONG, vous considérez que la conformité n'est pas synonyme des transparences à 100% et que la conformité ne veut pas dire que les ressources naturelles du pays sont désormais gérées de manière parfaite. Donc vous estimez que toute conclusion serait hâtive par rapport à cette note?
Non, je ne dirais pas, parce que quand vous parlez des ONG, je crois qu'il faut distinguer. Il faut distinguer la société civile du gouvernement, qui est très proche du gouvernement, et qui est d'ailleurs, dans la plupart des cas, la caisse de résonance du gouvernement, et de cette société civile-là qui a certainement déclaré, parce que nous n'avions pas été mis à contribution, et cela a raison. Donc, nous pensons, et nous l'affirmons encore aujourd'hui, que le secteur des ressources naturelles en RDC et géré de manière tout à fait opaque. D'ailleurs, ici, nous pouvons nous appuyer sur la propre déclaration du chef de l'État l'année dernière. À Lubumbashi, il avait dit que c'est un secteur où il y a la corruption, la fraude fiscale, l'évasion fiscale et autres, et que cela nécessitait que nous puissions, n'est-ce pas, établir un programme précis, une feuille de route précise, avec des indicateurs précis, et notamment mettre un plan d'action pour pouvoir juguler la fraude dans les secteurs pour que nous ne puissions pas parce que si vous prenez le cas seulement du Katanga avec le 980 000 tonnes, je crois qu'on n'est même pas 2 milliards de dollars de recettes. Ce qui veut dire que sur le 50 milliards que nous avons produit depuis 2007 jusqu'en 2013, donc fin 2013, la RDC n'a eu que 2 milliards. Donc le boom minier que nous avons connu ces 10 dernières années, le boom minier n'a pas profité au pays. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important que nous puissions, après qu'on ait validé le pays sur la forme, qu'on ait aussi aujourd'hui la pensée de se dire qu'il faut mettre en place un plan d'action costaud pour que nous puissions lutter tous ensemble contre la fraude minière, contre la fraude douanière, contre les agences en douane qui facilitent cette fraude notamment, contre les régies financières qui sont en train de faire n'importe quoi dans le secteur, de manière à ce que le budget de l'État passe de 8 milliards à 20 milliards, c'est possible, s'il y a des hommes civils pour gérer le secteur, afin que nous puissions avoir un budget conséquent.
Monsieur Jean-Pierre Mouteba, dans votre analyse, vous avez évoqué deux aspects, la matérialité et l'exhaustivité. Vous avez dit que par rapport à la matérialité, les contrats chinois ont été pris en compte alors que ces contrats n'ont jamais été exécutés. Et par rapport à l'exhaustivité, vous avez parlé des deux entreprises dont les pièces comptables n'étaient pas au pays, en RDC, mais ces entreprises ont été prises en compte. Cela veut dire que lorsque la structure émet son appréciation et laisse avec légèreté?
Non, je dirais que venez les deux entreprises dont je ne cite pas le nom, déclarent avoir investi 7 milliards à peu près de dollars, 7 milliards 500. Vous vous rendez compte, c'est à peu près le 4/5 du contrat chinois initial de 9 milliards. Et les contrats chinois aujourd'hui, vous avez des routes à Kinshasa. Je crois que ceux qui roulent aujourd'hui à Kinshasa, roulent sur de bonnes routes. C'est grâce au contrat chinois qui a été réduit à 3 milliards. Mais nous avons deux entreprises au Katanga qui déclarent avoir investi 7 milliards, à peu près 7 milliards et demi, mais qui aujourd'hui, bon, il n'y a aucun impact ni sur les budgets parce qu'elles ne sont pas censées financer les routes, les infrastructures comme les contrats chinois, mais plutôt de payer à l'État ce que l'État doit utiliser pour pouvoir faire face à ces charges. Mais
merci.
Regardez, ces entreprises-là ont déclaré 7 et demi, mais il n'y a rien. C'est pour dire qu'en fait, tout ça, pour nous, il est aujourd'hui établi que ce contrat chinois a été pris en compte alors que la matérialité en réalité la matérialité n'est justifiée pas que ce contrat soit pris en compte parce qu'il est encore en phase de construction.
Merci. Alkitenge, analyste stratège, quelle analyse vous faites de cette annonce, la RDC jugée conforme à la norme ITIE?
Je vais profiter de votre antenne pour prêcher la non-autoflagellation. Notre pays est un pays qui célèbre les échecs. Il est important que, à l'occasion, nous puissions être en mesure de célébrer un succès. Que notre pays soit sur la place internationale déclaré conforme est un motif sérieux de joie et nous ne devons pas lui mettre des tâches. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, pays conforme, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire qu'en fait, un des instruments de redevabilité, ce n'est qu'un instrument, a été mis à niveau au point que le pays est considéré comme conforme. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous les Congolais? Cela veut dire que, un, sur base de ce critère international, ça va, mais est-ce que ça résout tous les problèmes congolais relatifs au secteur minier? La réponse est non. Et là-dessus, moi j'en appelle à la vigilance des citoyens congolais, la vigilance afin de surveiller les gouvernants, mais aussi la vigilance afin de surveiller et de mettre de manière tout à fait claire de la pression sur les entreprises. Aujourd'hui encore, lorsque vous lisez la presse internationale, la Tanzanie vient d'obtenir un redressement suffisamment important sur des entreprises minières pour les pratiques qu'elles opèrent chez nous. Monsieur Muteba tout à l'heure faisait allusion aux investissements qui sont artificiellement gonflés par certaines entreprises minières. Ça reste une réalité. En fait, à un moment donné, les entreprises minières ne pouvaient pas s'imaginer que la République démocratique du Congo se réveillerait avec intelligence pour observer de manière claire la responsabilité des uns et des autres dans les déclarations. Vous savez, quand quelqu'un vous dit qu'il a investi 4 milliards, 3 milliards, c'est lui qui dit qu'il a investi 3 milliards et 4 milliards. La vérité des investissements, c'est qu'ils sont amortis, ça veut dire qu'ils sont déductibles de recettes déclarées par l'entreprise au moment de sa vente, et donc ça réduit l'éventuelle possibilité de distribuer les dividendes et donc de payer l'État. Ceci dit, les entreprises qui gonflent les investissements aujourd'hui font face à une exigence de l'État de vérifier la matérialité de ce qu'elles déclarent. Et ça pose un petit problème. Et aujourd'hui, l'État congolais est en train de faire son travail, il faut l'en féliciter. Et je crois simplement que l'État congolais soit efficace ou qu'il ne le soit pas, c'est un devoir des citoyens que de surveiller et les gouvernants et les entreprises, afin que l'équivalent de ce que nous produisons comme richesse sur notre territoire corresponde au changement qualitatif de la vie des citoyens. Et là-dessus, il ne faut quand même pas mélanger les choses. Aujourd'hui, nous sommes un jour de fête. Ce qui est arrivé à la République démocratique du Congo sur la place internationale est plutôt positif.
Oui, dans ces processus, il n'y a pas que le gouvernement et les entreprises qui sont acteurs. Il y a aussi la société civile, vous avez évoqué, la société civile qui a un rôle important à jouer parce qu'elle doit, n'est-ce pas, se saisir des données contenues dans ces différents rapports ITIE afin d'en débattre et éventuellement influer sur les décisions des décideurs politiques. Comment vous évaluez l'apport de la société civile dans ces processus ITIE?
Les premiers que moi je critique de très manière manière très sévère, c'est vous, les journalistes. Nous devrions avoir dans ce pays des journalistes spécialisés sur des questions de transparence dans le secteur de l'industrie extractive. On devrait avoir des experts ITE parmi les membres de la presse, de sorte que quand vous reportez une information, elle est sans équivoque, elle est correcte, elle est vérifiée. Deuxième chose, ce sont les intellectuels et les hommes des sciences. Parce que finalement, ils sont la crème de la République. Ils ont l'obligation d'informer les gens. Les différentes facultés d'économie qu'il y a ici chez nous, qui enseignent matin, midi, soir, devraient avoir la capacité de critiquer la cité. La cité, pour moi, c'est la nation. Donc, il est important que les intelligences de la République se penchent sur les réalités au quotidien. Moi, les universités excentrées qui vivent en dehors du temps et de l'espace, ça me sidère. Je crois simplement qu'il est important que nous nous rendions compte que nous sommes responsables vis-à-vis de la qualité de vie et de notre pays et de nos citoyens. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre pays et il est important que lorsqu'on parle d'une question aussi pertinente que celle de la transparence dans le secteur de l'industrie extractive et le pays en dépend de manière large, il est important que la communauté s'intéresse à la question.
Et vous pensez que l'État, n'est-ce pas, fournit des efforts pour pouvoir pousser cette société civile à pouvoir s'approprier ces processus?
Non, il ne faut surtout pas s'attendre à ce que l'État incite les gens à le surveiller. Je crois simplement que c'est un devoir de citoyen d'être suffisamment vigilant pour être en mesure de savoir quel est le rôle que vous jouez. Vous savez, les gens qui exercent le pouvoir, ils l'exercent par délégation. Nous leur donnons mandat. Nous devons donc, par définition, les surveiller au quotidien et nous assurer qu'ils posent des actes qui sont dignes de nous.
Alors, et les rôles de l'État dans tout ça, après avoir publié ce que les entreprises ont payé au fisc, ont payé au trésor public, l'État ne devait-il pas dire à l'opinion ce qu'il compte faire avec ses ressources? C'est aussi ça la transparence.
Je crois simplement que cet exercice est fait et il est bien fait dans le cadre budgétaire, aussi bien en prévision qu'en exécution. De manière régulière, l'État est censé et doit produire ce qu'on appelle l'état intermédiaire, ça veut dire au trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, l'État rend compte de l'évolution du budget. Et donc cet exercice serait farfelu qu'il soit fait de manière spécifique rien que pour le secteur extractif. Donc ceux qui s'intéressent à la progression du budget savent se rendre compte que nous sommes à telle étape ou à telle autre étape. Je crois simplement qu'une chose beaucoup plus importante, c'est que si vous n'exigez rien des dirigeants, en fait, ils garderont toutes les informations pour eux. C'est pour ça que l'opinion publique d'un pays est censée être une opinion publique intelligente et responsable et qui exige.
Mais pourquoi pousser l'État à être transparent alors qu'il a librement adhéré à cette initiative ITIE? On ne l'a pas formé, on l'a pas plutôt forcé.
Non, c'est exact. Et il faut ici féliciter l'État. L'État dans sa continuité, figurez-vous et souvenez-vous que lorsque nous nous sommes inscrits dans cet exercice de l'ITIE, c'est pendant l'époque de 1+4. Certains de nos frères qui ont d'ailleurs contribué largement à ce que notre pays s'inscrive, croupissent dans les geôles de la CPI. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que l'État dans sa continuité et dans son caractère indéfini est responsable. Et l'État pose des actes de consommation intérieure, mais également des actes de consommation extérieure. Le fait d'adhérer à l'initiative ITIE est un acte de consommation extérieure pour assurer la visibilité de la République et bien entendu assurer son attractivité.
Professeur Jérémy Mac Doumba, vous avez suivi les analyses de Jean-Pierre Moutéba, vous avez suivi Al Kitenge. Jean-Pierre Moutéba qui dit que cette validation, c'est une validation des pures formes. Il parle de l'aspect matérialité où les contrats chinois ont été pris en compte alors qu'il ne devait pas être pris en compte parce qu'il n'était pas encore exécuté. Il parle de l'exhaustivité où des entreprises avaient été prises en compte alors que leur pièce comptable n'était pas au pays.
Mais vous avez entendu, j'aurais préféré que vous parliez aussi de l'analyse de Al Kitenge, parce que vous avez dit, j'ai entendu des analyses, mais vous parlez d'une seule analyse. Alors moi, je suis très positif, je voudrais commencer par l'analyse très scientifique, une analyse de quelqu'un de perspicace, quelqu'un d'ouverture d'esprit, et c'est Al Kitenge, et je voudrais lui dire vraiment coup de chapeau, parce que c'est une analyse vraiment qui me fait plaisir, et c'est cela la vision de l'ITIE. Et c'est un homme ancré à bien regarder, et regarder avec les yeux ouverts. Alors,
c'est analyse... lui qui émet des critiques.
Alors, non, je vais revenir sur l'analyse de Jean-Pierre Moutéba, qui est un ami, un frère. Je voudrais dire que, comme toujours, notre ami Jean-Pierre Moutéba, il fait de l'amalgame. Et Jean-Pierre Moutéba, il estime qu'il y a une société civile du gouvernement, et lui, il est société civile de l'opposition. Or, comme vous le savez, la société civile, c'est un bras au service du gouvernement. C'est la société civile qui aide le gouvernement à compléter là où le gouvernement pouvait atteindre. Alors, lorsqu'on se met en opposition du gouvernement, tout ce que l'on peut dire ne peut pas être accepté. Alors, Jean-Pierre Moutéba, c'est la société civile de l'opposition. C'est cela qu'il faut dire tout de suite. Alors, s'il est la société civile de l'opposition et qu'il manque du nationalisme du genre Al-Kitenge, il faut dire qu'on ne peut pas écouter ce genre de refrain, de toujours dire des choses quand on ne les a pas bien maîtrisées. Il vaut mieux ne pas le dire. Par exemple, Jean-Pierre Moutéba parle de la matérialité de la Sicomine. C'est quoi la matérialité de la Sicomine? C'est un terme tout à fait... oisif, un terme vraiment hasardeux qu'on utilise. Je voudrais dire ici, quand il parle, pourquoi est-ce que il devrait dire...
Par rapport au contact.
Non, laissez-moi, je voudrais dire. Lorsqu'il dit qu'on n'aurait pas dû parce que la Sicomine n'a pas encore commencé à produire, jamais dans les rapports ITE, vous allez retrouver des paiements que la Sicomine a effectués à l'État congolais. Ça n'y est pas. Mais vous retrouvez... Moi, je pense que Jean-Pierre Moutéba, c'est là où il fait l'amalgame et surtout qu'il ignore son propre rôle. Le rôle de la société civile, la vraie, la société civile qui est pragmatique, a dit, nous voulons savoir, parce qu'en fait, l'argent qui est cité dans le contrat chinois, c'est notre population qui le remboursera, mon ami. Donc, la société civile a exigé à ce stade, déjà, dans les rapports ITE, qu'on sache combien on a donné, qu'est-ce qu'on en a fait. Et ça, Moutéba doit parler de la matérialité en toute confusion pour dire, pour réfuter ceci. Alors pour moi, je ne vais pas qualifier cela comme étant un amalgame, mais je dis une confusion tout à fait volontaire pour question de rester dans la discussion. Et Jean-Pierre Moutéba, il vous parle de BDO. Et ensuite, un membre de la société civile qui a déjà plusieurs fois cité les fameuses entreprises, à un moment... Il dit « je ne peux pas les citer ». Alors, dans la crainte d'être poursuivi pour des déclarations irresponsables aujourd'hui, il se rebuffe.
C'est trop fort quand même.
Non, ce que je dis est une vérité. Jean-Pierre Moutéba était avec moi devant ce micro. Il a parlé des Tenke Fungurume et des KCC. La BDO n'a concerné que ces deux entreprises.
Oui,
alors, laisse-moi terminer. Je n'ai pas encore...
C'est de savoir... Que gagne la RDC en étant déclarée conforme à la norme ITE?
Beaucoup. J'ai envie de dire que cet homme qui dit il faut qu'on célèbre ce qui est positif pour la nation. Et tout Congolais doit être nationaliste. Et nous ne pourrons pas aujourd'hui cracher sur des efforts de tout un gouvernement. Depuis 9 ans, nous n'avons pas réussi à mettre en place un mécanisme de répondre aux exigences de l'ITE. Qu'est-ce que notre pays gagne, mon ami? La première chose, ce label est un label d'attractivité. C'est un label qui va attirer. Les investisseurs vont se dire, nous pourrons aller là-bas, ils peuvent augmenter les capitaux frais des entreprises qui sont déjà là, parce qu'ils savent que tout ce qui sera payé à l'État sera déclaré, et ce qu'eux recevront, ils le déclareront. C'est une confiance énorme.
Nous allons suivre cette question pour vous.
Kassamba Wanango, Bunia, en province orientale. Hier, c'était la teinte des programmes PPTE. La RDC proclamée comme le pays à la croissance économique rapide élevée au sud du Sahara. Aujourd'hui, pays conforme à l'ITE, et pourtant la pauvreté persiste. Que dire de toutes ces éloges?
Voilà. Vous avez dit que ça va redorer l'image du pays,
mon ami,
l'attractivité, il y aura des investisseurs qui vont venir.
J'ai peut-être mal prononcé son nom. J'ai mal prononcé son nom, mais je préfère vraiment cet ami. Il a posé une question exacte.
La pauvreté,
mais Al-Kitenge vous parle de la redevabilité. Aujourd'hui, le gouvernement congolais rend compte à son peuple des revenus du secteur. Si le peuple ne peut pas se saisir de ce compte rendu, de ce qui lui a été donné pour exiger son utilisation, son appropriation de son revenu, on ne doit pas frapper le gouvernement. Donc, ce monsieur qui est à Bounia ou dans la province orientale, il doit savoir que le gouvernement lui a rendu compte et lui doit interroger ses élus. Il ne doit pas se mettre en rang pour aller élire des parlementaires qui ne lui rendent pas compte, qui ne lui expliquent pas ce qu'on a fait des revenus du secteur extractif.
Merci Jean-Pierre Mouteba, qui gagne la RDC en étant déclaré pays conforme à l'ITIE, même si vous dites que cette validation, c'est une validation des pires formes. Qui gagne la RDC?
Bon, je dirais que la RDC gagnerait. Bon, je ne sais pas si la RDC gagne, mais moi, je ne peux pas me mettre à la place de la RDC comme le prof patriote avec lequel vous êtes. Moi, je suis plutôt société civile de la population. Que la société civile ne peut pas être du gouvernement comme c'est le cas dans notre pays.
C'est peut-être ça.
Dans ce qui me concerne, je dis que la population, moi je suis de Colésie où je suis né, où j'ai été la semaine dernière, je me dis qu'est-ce que la population de Colésie gagne par rapport aux 980 000 tonnes qui ont été produites, dont 3 quarts dans les districts urbains rurales de Colésie. C'est ça ma question. Mon problème, c'est que la RDC gagne un taux de croissance à ceci ou cela, alors que la population de Colésie, les 1 million aujourd'hui d'habitants de Colésie ne trouvent son compte dans ce qui se passe. C'est ça mon problème. Donc s'il y a amalgame avec tout ce que, bon, comme dit matérialité, chinois qu'on sort, notre problème à Colésie aujourd'hui, ce n'est pas le contraire, c'est pas qu'on vous valide tout ce que vous voulez, mais c'est plutôt que nous puissions savoir qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que les entreprises qui sont dans les districts urbains ruraux de Colésie, qui vont faire l'année prochaine 1 200 000 tonnes, rapportent à Colésie. Ça signifie que si demain nous avons une production de 1 500 000 et que des recettes qui sont de 300, 400, 500 000 ou 1 million, ou 1 milliard seulement, alors que nous savons que le cours des métaux aujourd'hui, nous sommes à 6 800 ou à 7 000, et tout ça, le prof parle de la confusion et de l'amalgame, parce que l'amalgame, c'est plutôt dans son chef. Il a vraiment l'amalgame, il ne comprend pas de quoi il s'agit. L'idée, ce n'est pas le nombre de rapports qui vont sortir, ni la qualité de rapport. Pour nous, la population, à travers la société civile que je préside pour la province du Katanga, ce que nous devons savoir, quand nous voyons 400 camions qui sortent tous les jours du Katanga, qu'est-ce que ces camions nous rapportent? Si on a des très bons rapports, les kings qui disent que les entreprises d'État et ceux qui ne devraient pas. Donc c'est ça le problème. L'amalgame, c'est dans le chef du professeur Mandumba et je dois le savoir. Quand nous avons parlé de BDO l'autre fois, BDO a bien dit qu'il n'y avait pas de pièces comptables pour l'entreprise au Katanga. L'enquête qui a été faite après a montré que pratiquement toutes les entreprises n'ont pas. Nous avons rencontré le cabinet du ministre national des mines, nous avons rencontré les agents, nous avons rencontré le ministre des Finances et autres. Ils peuvent donc tous confirmer qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir évaluer la hauteur de l'investissement. Et nous sommes là, en train, Al-Kipinger vient de parler de l'investissement, de la hauteur, de l'amortissement et tout ça, de la période de l'amortissement.
Merci Jean-Claude
Mouteba. Vous venez de le dire, ce sont des questions-là qui ne portent pas à conclusion. C'est des choses réelles. Nous produisons plus, nous ne voyons pas de recettes. Nous sommes valides parce que nous sommes pays conformes. Qu'est-ce que la conformité apporte en termes réels, en termes d'augmentation des recettes? C'est ça la question.
Merci Jean-Pierre Mouteba.
La conformité correspond aussi à un certain nombre de faits sur terrain, et non pas à l'amalgame, ou à des théories, ou à des rapports.
Merci Monsieur Mouteba, merci. Al-Kitenge, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Bahome de Bukavu, au sud de Kivu. Cette annonce de l'ITIE est une bonne chose, mais il ne suffit pas que la RDC soit déclarée ainsi par l'ITIE. Encore faudrait-il, ce qui est d'ailleurs nécessaire, que tous les revenus miniers, pétroliers et autres issus des exploitations des ressources naturelles de la RDC participent réellement à son développement socio-économique pour que, d'une manière ou d'une autre, tous les Congolais puissent aussi en jouir.
Voilà.
Il a totalement raison et j'aime bien ce pays parce que lorsqu'il s'agit de parler de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de passion. Mais au-delà des passions, il faut quand même que l'on se rende compte qu'il y a un certain nombre de réalités. Par exemple, je vais dire quelque chose qui va choquer plus d'une personne. On parle de boom minier. Mes chers amis, soyons sérieux. Demain, nous parlerons d'1 million de tonnes de cuivre. ça ne représentera que 7 milliards de dollars de ventes. Même si l'État congolais touchait 40% de cet argent, ça ne fera que 2,8 milliards de dollars. Boom minier, nous n'y sommes pas encore. Il faut être sérieux avec les chiffres. Nous sommes un pays de 70 millions de personnes, 2 345 000 km². Quand on parle de boom, c'est parce qu'on regarde notre passé, c'est un passé de paresseux. Il est important qu'on se rende compte de l'ambition réelle de ce pays. Et j'aimerais donc que ce mot boom minier disparaisse une fois pour toutes de la terminologie des Congolais. Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore à des petits investissements. Même quand on parle de 10, 15, 20 milliards de dollars, ce n'est encore rien par rapport à ce que doit être ce pays.
Mais il y a des experts qui pensent que tout est lié à la... En fait, à ce qui a été fait en amont, c'est-à-dire les contrats qui ont été signés entre l'État congolais et les multinationales, c'était des contrats léonais qui ont privilégié beaucoup plus les multinationales au détriment, n'est-ce pas, de l'État congolais.
C'est tout
ça fait que les richesses qui sont créées profitent beaucoup plus à ces multinationales.
Tout ça est très discutable. Il y a deux paliers. Le premier palier, c'est le code minier. Et heureusement qu'il est en phase de révision. Nous espérons beaucoup qu'il va devoir corriger les différentes imperfections. Deuxième chose, c'est au niveau opérationnel. Aujourd'hui, les entreprises ont effectivement investi, sont en train de produire. Regardez la manière dont elles tiennent leur comptabilité. Le risque est à la fuite des capitaux. C'est là-bas que l'État congolais doit se réveiller. Pour que celui-ci se réveille et qu'on ne tape pas sur lui parler plus fort, il est important que l'opinion publique soit éveillée et produise des chiffres et démontre de manière assez claire qu'il y a aujourd'hui des fuites des capitaux. Et nous avons des organismes comme celui que dirige le président Thabo Mbeki qui travaille énormément sur la fuite des capitaux sur le continent africain. Une autre chose qu'il faut dire, le professeur Makndouba l'a dit tout à l'heure, c'est que tous les rapports qui ont été publiés sont publiés sur base des rapports de 2011. Nous sommes en 2014 aujourd'hui, où nous n'avons pas la capacité d'agir sur ceux qui étaient en train de travailler en 2011. Il est important qu'on investisse beaucoup d'argent pour que les technologies nous permettent de saisir l'information publique en temps réel, de sorte que le tableau de bord soit en mesure de permettre aux citoyens de faire pression à ceux, sur ceux qui sont en fonction au moment où les décisions apparaissent. Et il est important que les Congolais deviennent un peu plus exigeants.
Professeur Makndouba, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que la RDC peut espérer? Ça sera aussi votre conclusion.
Moi, je voudrais dire d'abord qu'il faut que la société civile soit agissante. J'ai bien entendu que dans une analyse tout à l'heure, que les organisations de la société civile ont parlé de la vigilance. Et comme l'a dit mon ami Al-Kiting, donc, sur la question de la vigilance, il vient de le répéter encore une fois. Il faut que le public se saisisse des rapports, que le public les débatte, que le public exige donc des gouvernants et des réponses adéquates sur l'utilisation de ces fonds.
Merci. Jean-Pierre
Moutéba. Il ne faut pas, attendez, avant que Moutéba parle, je voudrais lui rappeler, salut que j'envoie le message. Il faut que Jean-Pierre Moutéba dise quelle est l'initiative qu'il a prise pour que le public participe au débat et enfin trouve des solutions. Il ne faut pas seulement critiquer.
Merci Jean-Pierre Moutéba. Ça sera aussi votre conclusion. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau, vous, société civile, pour que les citoyens congolais puissent s'approprier ces processus, puissent, n'est-ce pas, se saisir des contenus de ces rapports ITIE afin d'en débattre?
Merci. Donc, en ce qui nous concerne, vous avez constaté que nous n'avons jamais cessé de faire des enquêtes indépendantes pour pouvoir soulever des questions qui fâchent notamment le prof Mouba et les autres membres de sa société civile, mais des questions importantes. Nous, la semaine dernière, comme je l'ai dit, nous étions en Polynésie, nous avons discuté avec la société civile de Polynésie de ces questions, nous avons partagé avec eux la vision. Et la vision pour nous, c'est que nous devons aller jusqu'au bout, nous devons arriver avec les recettes qui vont être produites, soit.
Merci Jean-Pierre Moutéba. Nous présentons nos excuses par rapport à la ligne de Jean-Pierre Moutéba. Al-Kitenge, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est qu'au-delà de l'ITIE, qui est un indice international, il est bon que nous ayons des indices locaux qui demandent beaucoup plus d'exigences et qui demandent aux gouvernants et aux entreprises de transformer l'économie de ce pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Paul Badianam a été à la technique. Merci à Kéline Kouté, à Alain Hiring, à Samuel Kachak, sur la supervision des Pélé Kipela Mondo, devant ses micros Guy Maté, et bon suite de programme sur Radio Capi.